juifs, le dialogue polémique et l'apologétique destiné aux juifs. Et il a fourni une première élaboration systématique de la foi chrétienne. C'est assez rudimentaire sur certains points. L'accent est fortement mis sur la connaissance de la vérité que permet la révélation par le Christ. Il manque le source de la justification par la foi, le sens de la grâce vivre ensemble, édulcoré, je pense qu'il faut que nous l'avouions. Mais c'est quand même un effort qui, pour son temps, est assez remarquable, qui a ouvert la voie. L'exégèse de l'Ancien Testament, qui pratique surtout avec le chiffre de Juif, est assez fortement allégorique, et d'une manière parfois un petit peu amusante pour nous, un peu maladile. L'allégorique ne nie pas forcément le sens littéral, mais ça s'intéresse très peu au sens littéral. Cherche des vérités spirituelles représentées par le sens littéral. Et j'attends parce que une question de bois dans l'Ancien Testament, une question d'un morceau de bois, parfois dans la croix, c'est la croix du Christ. Ce qui est l'exigence allégorique, c'est tout très souvent. C'est qui le but là? Oui, ma chère. Je pense que la Didaché peut, par des allusions, suggérer au moins que l'auteur ou le rédacteur connaissait l'évangile de Matthieu. Mais je pense qu'on ne peut pas dire que ce soit parfaitement net. Comme je vous ai dit, les pères apostoliques n'avaient pas en général le Nouveau Testament entier. Il y avait quel évangile, quel autre. Oui, je crois en effet que le fait de ne pas avoir pour de tout Nouveau Testament a joué chez les pères apostoliques. Ils n'avaient pas tous les textes, et même s'ils avaient ceux de Paul, ils n'avaient pas tout le contexte du Nouveau Testament. On est dit, mais c'est un facteur en tout cas qui a pu jouer. Il ne peut pas avoir tout le Nouveau Testament, mais effectivement, être désavantagé par rapport à notre situation que nous avons identifiée. Bien sûr, un jeu aussi. Maintenant, comme ça, je ne me rappelle plus exactement à quel livre du Nouveau Testament on estime que tel ou tel apostolique que je voulais chercher, cette allusion. En général, il s'agit d'allusions. Il y a très peu de citations formelles. Il y en a quelques-unes, mais très peu. Seulement, on reconnaît un tour de langage, on dit, ah, ça va venir de l'évangile de Matthieu. Mais même là, on peut encore hésiter en disant, est-ce que c'est vraiment l'évangile de Matthieu, ou bien est-ce que c'est l'enseignement oral des paroles de Jésus que Matthieu a recueilli? Est-il a connu cela par l'enseignement qu'il a eu dans son église, ou bien est-ce qu'il a eu ça par lecture d'un manuscrit de l'évangile de Matthieu? Même là, il y a parfois matière à hésitation et discussion. Donc, après la génération des pères apostoliques, vous avez ces pères apologètes avec Juste un martyr comme le principal et une association qui désormais sera très majeure pour l'élaboration de la théologie chrétienne avec le platonisme. Avec une philosophie constituée. Dans le Testament, il y a quelques contacts avec le platonisme. Il y a surtout dans les discours hébreux. Elle est assez proche dans le langage. Mais plus souvent, c'est un autre courant, le stoïcisme, qui est relativement proche. Et à Athènes, en acte 17, Paul cite des stoïciens pour établir le contact. Il y a deux citations de philosophes stoïciens dans son discours. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, et de lui, nous sommes la race. Il est assez frappant qu'au IIe siècle, avec les pères apologètes, avec Justin comme principal des pères apologètes, en tout cas de la première vague des pères apologètes, ce soit plutôt le platonisme qui sert d'allié, d'appui. Il y a des bribes de stoïcisme aussi chez nous, pour expliquer dit, mais il y a un déplacement là. Un des facteurs qui ont joué, c'est le prestige social du platonisme. Alors qu'on peut le signaler au passage. Le platonisme avait connu une éclipse, bien sûr, du Platon, glorieux, ah, mais dans les siècles qui avaient suivi, c'est le stoïcisme qui a gagné et qui est devenu la philosophie de base, un peu de tout le monde, dans le monde méditerranéen. Et au premier siècle, c'était le cas. Philosophie, qui est une philosophie de la culture cosmopolite, dans l'Empire d'Alexandre d'abord, et puis l'Empire romain par la suite, qui avait un idéal d'unité de tous les hommes, y compris avec des classes, des barrières, des classes sociales, finalement paraissait une philosophie un peu vulgaire à l'élite, bien que le dernier des grands philosophes stoïciens était empereur, Marc Aurèle, justement au deuxième siècle. Les deux derniers grands philosophes du stoïcisme ont été un esclave et un empereur. Alors, l'esclave, c'est Épictète. Épictète, à la fin du premier siècle, et l'empereur Marc Aurèle. Évidemment, c'était un militaire d'abord. Il est militaire, mais la philosophie stoïcienne, avec son accent sur la volonté, sur l'ordre, sur la maîtrise de soi. Mais cette philosophie stoïcienne, donc, était la philosophie de base, et avec laquelle Paul donc, a établi le contact en accès. Cette philosophie stoïcienne était devenue la philosophie banale de tous. Et il y a eu, à partir de la fin du 1er siècle, donc au 2e siècle, une renaissance platonicienne. Renaissance du platonisme, avec un commencement dans l'élite. Généralement, les modes nouvelles naissent dans l'élite. Et au milieu du 2e siècle, donc le platonisme, rappelez bien, avait pensé avancer. Des gens qui se reconnaissent entre eux comme supérieurs aux autres. Et alors, la jeune église chrétienne, maîtrisée avec un bon contingent d'esclaves dans son recrutement, eh bien, elle a trouvé le truc en quelque sorte en s'alliant dans son apologie avec le platonisme. Un philosophe platonicien, Justin, s'était converti, c'était habile d'utiliser le langage platonicien, d'associer christianisme et platonisme dans cette situation où le prestige social du platonisme est très élevé. Vous voyez comment les choses ont pu se passer. Ce n'est qu'un des facteurs, hein, qui ne dit pas que ce soit l'unique, bien joué. Ça a eu pour conséquence, cette association avec le platonisme, de favoriser diverses tendances, de favoriser un certain intellectualisme, oui, et en même temps un certain mysticisme, parce que dans le platonisme, il y a un terme mystique. C'est par là qu'on pourrait dire que Platon s'oppose à Aristote, qu'Aristote s'est opposé à Platon. Il y a une ferveur, un frémissement, le mobile de la philosophie. Vous savez, Platon, c'est Eros, l'amour du beau et du bien. Eros des philosophes. Voilà la formule de Platon, pas l'héros vulgaire, au sens que le mot a pris dans notre 20e siècle occidental, c'est d'abord la ligne du bien, la splendide, au sommet du monde des idées, du soleil, du monde idéal. Mais il y a un aspect affectif et de ferveur, aspirant à l'union. C'est force élévatrice de la philosophie platonicienne. Et dans l'alliance avec le christianisme, ça a apporté à la fois un certain idéalisme et un certain mysticisme.
tendance à l'allégorie dans l'exégèse biblique. Car le terrestre est dévalué. Il n'est pas nié, réprouvé, mais il est dévalué dans le système platonicien. Il y a un accent sur l'éthique aussi, le bien. Le bien est un thème très important. Donc l'accent sur la manière chrétienne de vivre, de marcher, l'importance de la loi morale. Je pense aussi que ça a été conforté par l'alliance avec le platonisme. Monsieur Sarri.
En général, diriez-vous, monsieur, qu'il y a dans l'histoire, dans la marche de l'histoire, une contrebalance, un rebondissement entre platonisme et le stoïcisme? C'est pas vrai.
Pas tellement avec le stoïcisme, non, je ne pense pas bien. Nous allons voir des chocs en retour, effectivement, il y a des oscillations de balancier, il y a des chocs, des contre-chocs, mais le platonisme a duré très longtemps. Et ensuite, c'est l'aristotélisme qui a vraiment fourni le contre-choc au Moyen-Âge, comme je le dirais dans un moment, mais bon, il va falloir que j'avance plus vite que je m'avance.
Je
m'arrange. Donc, en ce qui concerne cette alliance avec le platonisme, je crois qu'elle a été un fait extrêmement important, avec un début donc au milieu du IIe siècle, si on accepte déjà des éléments dans le Nouveau Testament aussi, pour ça, pas nier, dans les livres hébreux, cela est difficile à ignorer. Il y avait eu un savant juif qui avait failli la voir, qui est le plus très important, mais quand même du Nouveau Testament, Philon, qui aussi a incliné les premiers penseurs chrétiens à aller dans son sens. Après cette génération des pères apologètes, des hommes, et alors là, on a fait la taille au-dessus, même de celle de Justin. Les hommes encore bien plus importants pour la théologie, et puis brièvement parler d'eux avant la pause, parce que je n'oublie pas que nous allons quand même pause. Et qui sont encore des apologètes à bien des égards, tout en commençant à être aussi de grands architectes de la vérité chrétienne, et déjà des protagonistes dans les luttes internes entre tendances qui se prétendent orthodoxes. Trois ou quatre grands penseurs qui sont sans doute après Justin les vrais fondateurs de la théologie chrétienne au sens un peu plus technique. Parce que bien sûr, tout chrétien a sa théologie, c'est un apostolique déjà, etc. Trois ou quatre. Le premier, dans l'ordre chronologique, est très important pour la suite, c'est Irénée de Lyon. Irénée de Lyon, qui venait d'Asie mineure, il était donc oriental de formation, mais il a exercé son ministère comme évêque à Lyon, en France. Et c'était un très grand bonhomme, c'est sans doute lui qui a défini l'orientation typiquement orthodoxe des catholiques par la suite. Sans exagération, c'est plus modéré que Quignard, à bien des égards. En gros, comme on dit, la fleurie, le point focal de son ministère, c'est 180. On dit à peu près 180. Il a dû combattre les gnostiques. Son apologétique, une apologie polémique contre le travestissement de la République, et aussi un homme proche des gnostiques, lié aux gnostiques, mais en même temps très original, Marcion. Marcion a été un peu le premier à appliquer les techniques des philologues, des grands médias gréco-romains, et à faire de la critique négative, de la critique mutilante à l'égard du texte biblique. version a découpé dans le Nouveau Testament, ne conservant qu'un certain nombre des livres de Paul, il était fervent de Paul, l'évangile de Luc, avec encore des suppressions, pas le reste, il s'est fait un canon, une liste de livres considérés comme autorité, rédite, mettant l'accent là-dessus, et produisant une espèce de déviation par rapport au message paulinien. Je crois qu'il avait mal compris, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, il l'a compris dans le sens d'un rejet de l'Ancien Testament. Mais avec une certaine vigueur dans la prédication de la grâce, malgré tout. Je veux dire qu'il a tiré du monde. Et donc, il avait, à la méthode même, conçu une technique pour dire non, ça c'est de l'excroissance, ça c'est pas la réalité apostolique authentique, faut suivre Paul. Et alors, il a fallu réagir contre cela. Irénée est tout spécialement l'homme de cette réaction. L'homme qui a défendu l'intégralité du dépôt apostolique. C'est à ce moment-là qu'on se met vraiment à se préoccuper de la liste des livres canoniques. Bon, les livres ont été recopiés, pratiquement maintenant dans les grandes églises, on les a tous, on a le Nouveau Testament à peu près complet, par contre les cartes apostoliques, on s'est équipé, mais maintenant, le problème, c'est de savoir ce qu'il faut garder. Parce qu'on dit, il faut rejeter Matthieu, Matthieu, en fait, c'est encore l'Ancien Testament, et puis, vous avez des gnostiques qui disent, et puis il y a ce livre-là, il produit des actes de Pierre, des évangiles de Thomas, produisent des tas d'ouvrages sous le nom des apôtres, en plus avec leur doctrine propre. Et alors, il faut mettre l'ordre, il faut y voir clair, et Irénée, c'est tout spécialement le théologien, de la remise en ordre, retrouver ce qui est vraiment apostolique, le dépôt apostolique. C'est à ce moment-là que le canon, alors il y aura encore quelques hésitations, discussions qui vont durer un ou deux siècles sur quelques livres à la limite. Parce qu'on ne saura plus, est-ce que les livres hébreux, c'est un apôtre, c'est pas un apôtre, c'est pas Paul, on a dit c'est France. Alors, il y aura pour quelques livres, mais le corps du Nouveau Testament sera reconnu, le canon sera vraiment bien délimité à partir de cette deuxième moitié du deuxième siècle et en fonction de la lutte contre Martion et contre les gnostiques. Contre la soustraction martionnite et les additions de gnostiques courantes. Mais il n'y a pas seulement cet accent sur le canon, la règle apostolique, les livres authentiques qui sont reconnus chez Irénée. Il y a d'autres éléments aussi qui sont très importants. Il y a aussi un certain appel à l'autorité des églises et de la succession des évêques, succession après les apôtres, donc succession apostolique, des évêques dans les églises. On comprend là aussi très bien comment dans cette situation ça s'est passé. Les diagnostics au docteur ont eu beaucoup au Henry Hubbard et autres fondateurs de sectes, au Moon, etc. De notre temps, hein, ça ne peut pas le même genre, je vous assure. C'est assimilable. Ils prétendaient avoir des traditions venues des apôtres. Et mais si les apôtres ont dit ça, mais nous avons gardé ces traditions. Très bien, mais... Alors, comment réagir, comment faire? Mais Saint-Irénée a trouvé le moyen en disant, vous voulez savoir ce que l'apôtre Paul a enseigné, mais allez dans les églises qu'il a fondé. C'est elles qui ont gardé son véritable enseignement. Si on veut savoir ce que vraiment l'apôtre Paul a dit et quels sont les documents authentiques, allez à Corinth, allez à la Rome, allez à l'été, etc. Oui, c'était une démarche naturelle, autorité de l'Église et de la tradition de ces églises de fondation apostolique, à cause de la contestation. Oui. J'imagine, par exemple, si quelqu'un se mettait à dire, Rubens Sayas, je me entendre dans le monde évangélique français, a raconté ceci ou cela. Comment réagir? Allez au tabernacle, c'est là qu'on vous dira ce qu'enseignait Rubens Sayas. C'est l'église qu'il a fondée, les successeurs ont connu, etc. C'est un peu comme ça qu'Irénée a introduit ce thème de l'autorité de la tradition pour confirmer, authentifier, et dire aussi comment il faut comprendre la tradition qu'est le Nouveau Testament. du canon. Le canon est porté par les églises, historiquement, pour vous montrer leur lien avec les apôtres. Vous voyez comment les choses se sont passées, mais ça a été bien sûr très important pour la constitution du site catholique. C'est l'écriture, oui, le canon scripturaire, mais non pas séparé de la tradition de l'Église, avec la tradition de l'Église. Et le problème des hérétiques, c'est justement de se couper de cela. Puis deuxième grand trait, qui semble-t-il important chez Irénée, il a un grand schéma d'interprétation globale du message chrétien. Et ce schéma est incarnationniste. De nouveau, il met l'accent sur l'incarnation plutôt que sur la rédemption comme expiation des péchés une fois pour toutes. On a appelé parfois ça la théorie physique de la rédemption, mais au sens où le mot physique garde encore son étymologie très vivante, physique c'est la nature. L'important c'est que la nature soit guérie, soit pénétrée des énergies divines, qui la guérissent de son mal, et qui l'élève jusqu'à Dieu. Alors c'est par l'incarnation que ça se produit. L'esprit divin entre dans la chair pour la transformer. Alors la vision de Saint-Irénée est une vision admirable, celle de la récapitulation par le Christ, qui tient la place centrale, et l'idée d'un très grand processus éducatif et curatif et qui élève l'homme vers Dieu. Il va commencer dès les premiers temps en préparant la venue de Jésus-Christ, et vraiment décisif, c'est que le Logos divin descend dans la chair, l'assume la chair, récapitule toute l'existence humaine avec sa dimension charnelle et l'élève, nous attirant après lui, l'élève vers Dieu. C'est une vision qui aura aussi une importance considérable pour le catholicisme ultérieur. Et d'autant plus que Saint-Irénée n'est pas un extrémiste en tout cela. Il n'est pas un fanatique, c'est pas. Il ne déborde pas. Il dit ça encore assez raisonnablement. D'ailleurs, il est capable aussi, dans le style d'un humour, il y a un passage où il se demande du langage agnostique, de leur généalogie divine, bizarre. Mais c'est délicieux. C'est vraiment une ironie de très belle venue. Bon, alors là, il y a très important. Il y a Tertullien. De Carthage, un avocat qui s'est converti et qui est devenu, lui alors, plutôt un fanatique, mais très efficace, un spadassin de la défense de la vérité orthodoxe contre les hérétiques aussi, contre Marcion, contre les gnostiques. Il a été très fort, un apologète auprès de la société romaine de son temps, il écrit le projet apologétique. Un orateur, vraiment, le don, même en traduction, nous vibrons à la qualité d'éloquence de Tertullien. Mais un extrémiste qui vient à la fin de sa vie, c'est pour ça qu'on ne dit pas Saint Tertullien, il n'a pas été canonisé, a viré dans une hérésie, et c'est une hérésie, en tout cas, un courant schismatique, le courant montaniste. Lancé par un prophète s'appelant Montanus ou Montan, francisez le nom sans mettre le us final, Montan. Il y avait en particulier deux prophétesses qui lui étaient associées. C'est un mouvement qui, à certains égards, pourrait ressembler au mouvement de type pentecôtiste ou charismatique que l'histoire a connu à diverses reprises et que le XXe siècle aussi a connu, accent sur le Saint-Esprit, accent sur des révélation, miracle, prophétie. On l'a accusé de se prendre lui-même pour le paraclet de Jean 14 à 16. Il est probable qu'il voulait simplement dire qu'il fallait faire valoir la promesse du Saint-Esprit, que son mouvement était une expression de la présence du Saint-Esprit, le paraclet. Mais qui ne prenait pas pour le paraclet en personne, contrairement à ce que les adversaires ont dit. Il faut dire en même temps que c'était dans les paramètres du temps. suis pas simplement un pentecôtiste à ce moment-là, c'est aussi une secte ultra-rigoriste, avec ascétisme et accent sur les œuvres. Le message de la grâce n'étant pas compris non plus. Et Tertullien, donc, un peu discrédité une partie de son œuvre, bien qu'on ait continué à s'en servir lorsqu'il a viré du côté montaniste à la fin de sa vie. Et puis alors, les deux autres hommes sont les deux grands penseurs d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, et le très grand Origène. Dont l'œuvre encore était apologétique, surtout celle de Clément. Origène, c'est aussi le premier grand bâtisseur de système. Il est au seuil de la période suivante. Alors pour Origène, je dirais peut-être quelques mots après la pause. En ce qui concerne Clément, c'est un penseur très chatoyant, très cultivé, habile. Et lorsqu'on lui reprochait, il y avait tout. Comme aujourd'hui, hein, il y avait des chrétiens dans les églises qui trouvaient qu'il y avait trop mardi, et qu'il faisait trop de philosophie, et qu'il était trop intellectuel, etc. Ah, ils disaient, ils blasphèment ceux qu'ils ignorent. Il prenait une sorte de gnose chrétienne, de gnose orthodoxe, pensant qu'il y avait un niveau de connaissance au-dessus du niveau de la simple foi. C'était dangereux, mais il pensait aussi rester dans les chemins de l'orthodoxie. Lutter ainsi, de façon plus efficace, contre les gnostiques, avec la gnose opposée au Nouveau Testament. Il était, lui aussi, un platonicien fervent, plus original que Justin. Et son œuvre à Alexandrie a ouvert la voie, très grand Origène, donc je dirais donc un mot après le quart d'heure de pause. Et puis j'essaierai d'accélérer le mouvement pour que. Parce qu'il faut terminer ça. Deux génies qui sortent du lot, qui, à coup sûr, dominent tout le groupe des pères. Ces deux génies sont Origène, dans la première partie du IIIe siècle, et Augustin dans la première partie du 5e siècle, fin du 4e et début du 5e siècle. Leur différence de tempérament, d'environnement et aussi leur place dans la succession ont impliqué une grande différence quant à l'influence exercée. Origène a été un pionnier. Origène a fait une œuvre très mélangée. On a pu dire de lui, je me rappelle en disant ça, perdre tout ce qui a été positif et perdre tout ce qui a été négatif. Dans la théologie courante de la grande Église, constituée à partir du IIIe siècle. Il n'a pas été canonisé, justement, à cause de la part négative de ce qui a été reconnu ensuite comme spéculation trop éloignée de la sobriété scripturaire. Par exemple, sa doctrine de l'apocatastase, c'est-à-dire du rétablissement de tout jusqu'au diable. Toutes les créatures, au bout du compte, se retrouvant en communion avec Dieu, sauvées. Cette doctrine-là, d'Origène, a été condamnée. Avec l'idée qui l'accompagne de la préexistence des âmes. Mais Origène, donc, bien qu'il ait été condamné pour certaines de ses opinions, et qu'il n'ait pas été canonisé à cause de ses errements divers, a quand même été le père de l'Église le plus important, à coup sûr génial, de toute la première partie patristique, le plus grand en Orient. Et son influence a été décisive, surtout le devenir de la théologie chrétienne, qui est du modèle que nous appelons catholique. Il a écrit, on peut considérer comme le premier traité systématique présenté comme tel, pas comme une apologie, pas comme un livre contre les hérésies, ainsi que s'intitulait l'ouvrage d'Irénée, mais intitulé De principe peri archon. Il a décidé d'affronter le problème même des fondements, des principes, toute la cosmologie, d'une vue globale, d'une doctrine chrétienne de la même ampleur que les doctrines des philosophes. Et il a traité ça dans un livre, relativement un livre de jeunesse, appelé Au sujet des principes peri archon, des principes. Il n'a pas été, sans doute, d'abord un théologien systématique, d'abord un commentateur des Écritures, d'abord un philologue. C'était l'homme le plus instruit de son temps, on ne peut pas douter. Une puissance de travail colossale, il a fait plusieurs secrétaires à la fois. Il a produit les premiers travaux de critique textuelle, comparant les manuscrits de traduction de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle les exacles, colonnes, il a fait des travaux d'érudition extrêmement poussés, et il y a des volumes et des volumes et des volumes de ses commentaires prêchés des livres bibliques. Donc, le gros de son œuvre, plutôt, du type du commentaire et de la prédication. Mais il a écrit ce grand traité des principes. Il a aussi écrit, alors, sur le tard, à la fin de sa vie, un autre ouvrage systématique de grande importance, contre Cels. Cels était un païen, un intellectuel païen, de grande capacité, qui est agacé de voir la croissance du christianisme. Et le grand succès qu'il devenait sur la scène culturelle, un facteur avec lequel il voulait compter, a écrit un livre de critique systématique du christianisme. C'est Payat, Cels, le premier auteur d'un livre de réfutation du christianisme. Il l'a appelé le discours périlique, le discours périlique, cherchant tous les points faibles de la théologie chrétienne. Et Origène a répondu son contre-Cels, un ouvrage aussi formidable. Alors, par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à présent, que dire de l'œuvre d'Origène? Il a fait progresser la théologie trinitaire et la christologie, non sans tomber ici ou là, quand même, dans les travers fâcheux, à cet égard, je ne vais pas entrer dans le détail. Il a été néo-platonicien, platonicien et même néo-platonicien. Il y a eu une deuxième forme de platonisme qui a émergé à Alexandrie, où il a été lui-même formé, où il a passé la première partie de sa vie, Origène, une nouvelle forme de platonisme qui a émergé à la fin du deuxième siècle et au début du troisième siècle. Le grand penseur païen de ce néoplatonisme, c'est Plotin, qui ensuite décide, il a été formé, il est allé à Rome et enseigné à Rome. Plotin, le dernier grand philosophe païen de l'Antiquité. Il est assez probable qu'Origène et Plotin ont suivi les cours du même maître, néoplatonicien commençant, qui s'appelle Ammonius Racas, à la fin du deuxième siècle. Et Origène a très clairement produit sa propre version chrétienne du néoplatonisme. Quel est l'élément nouveau du néoplatonisme par rapport au platonisme? Le platonisme avec son opposition du monde des idées, couronné par le bien, et puis le monde matériel, le monde qui tombe sous l'essence. Quel est l'élément nouveau du néoplatonisme? L'élément le plus nouveau sans doute, mais on est comme que je simplifie à l'extrême, c'est la vision qu'on a appelée comme une dramatique du divin, de l'émanation et du retour. À la place de l'idée du bien, aussi l'idée du bien, c'est l'un ineffable, qui est l'absolu, entre ça. néoplatonisme en général. De lui émane l'intelligence et le monde des idées, de laquelle émane l'âme, principe moteur de l'univers, avec les âmes qui sont contenues. Et puis, de ces âmes, une dernière procession à la limite du néant, la matière. Les âmes humaines sont emprisonnées dans la matière et doivent faire retour vers l'origine. C'est un grand mouvement circulaire, la procession ou émanation et le retour qui marque la structure du néoplatonisme. Eh bien, ce schéma circulaire, fondamental, Origène le retient. Il l'accommode à l'idée de création. Le Dieu, on parle de la Bible, devient l'homme néoplatonicien, ou l'inverse, comme vous voulez. Le Logos prend la place du royaume, de ce domaine des idées, de l'intelligence qui procède. Vous avez une structure de ce type qui devient la structure de la théologie chrétienne. Ça, bien sûr, ça a une très grande importance. Méthode allégorique de cette écriture. Ça, c'est, ça se développe alors avec Clément et avec Origène, la doctrine des trois sens de l'écriture, qui deviendront même quatre plus tard. S'organise, codifie en quelque sorte. Accent sur la connaissance. Il y a une certaine fièvre mystique aussi chez Origène. Il ne faudrait pas le prendre pour un intellectuel qui n'aurait pas payé de sa personne. En fait, il était tellement sincère qu'il a été jusqu'à se mutiler lui-même. C'est-à-dire qu'il était sincère. Il a été condamné pour ça aussi, d'ailleurs. Il a pris littéralement la parole de Jésus dans Matthieu 19 sur ceux qui sont tenus pour le royaume de Dieu. Et il s'est mutilé. Il était tellement désireux de miser toute sa vie dans l'obéissance au Christ qu'il a cru qu'il devait consentir ce sacrifice. Qu'il l'a fait. C'est une indication qu'il ne faudrait pas je lutte contre ce malentendu. Comme je l'ai déjà fait hier, chaque fois que je peux, il ne faudrait pas croire que le caractère spéculatif, hautement intellectuel, scolastique, si vous voulez, de la théologie, certains de ces hommes signifiaient qu'ils n'étaient pas en même temps très fervents, dévotion extrême dans leur vie, dans leur existence, ça ne touchait pas leur existence. C'est une fausse opposition, ça, par rapport à la vérité historique. Les mêmes hommes qui ont été les plus intellectuels dans leur appréhension de la vérité biblique, c'était aussi souvent des mystiques ardents et prêts à un geste même comme celui d'Origène. Simplement pour bien capter les choses. Mais disons que l'accent majeur est chez lui sur la connaissance, sur la vérité révélée par le Logos, cette vérité magnifique à contempler, dans laquelle s'élever par l'intelligence et par un certain ascétisme. Du fait de son néoplatonisme, de l'accent sur le monde idéal, il a plutôt freiné la tendance au sacramentalisme. Le sacrement, mais, dans l'école d'Origène, il y a plutôt un coup d'arrêt par rapport à l'évolution qui se dessinait à la fin du deuxième siècle. Voilà quelques éléments à propos d'Origène. Dans les deux siècles qu'on étudie, des éléments divers dans l'œuvre immense et tumultueuse d'Origène se sont décantés, il y a eu des courants divers qui se sont créés, et on s'est battu à propos surtout de la divinité de Jésus-Christ et de tout ce qu'elle implique. Alors ça s'est réglé dans une grande assemblée, concile. Une fois que les persécutions ont cessé, que l'empereur est devenu chrétien, et donc de quelles assemblées ont se tenu, souvent d'ailleurs avec des pressions au sens divers du pouvoir impérial. Le premier de ces grands conciles, peu après la conversion de Constantin, a été celui de Nicée, qui a établi de la manière la plus ferme l'entière divinité de Jésus-Christ contre les vues d'un certain Arius, qui pouvait se réclamer d'un fragment d'origénisme, mais ses adversaires orthodoxes aussi se réclamaient d'Origène, ils pouvaient le faire. Dans le concile de Nicée, 325, un très plus important peut-être de tous les conciles, l'écuménique de ce siècle-là, concernant la divinité de Jésus-Christ, il y avait un jeune expert théologique. C'était là, près de son évêque, il n'était pas le même père conciliaire, parce qu'il n'était encore que diacre, à cause de sa jeunesse, un dénommé Athanase. Et il est devenu sans doute le plus grand des théologiens, du lutteur pour la vérité, du 4e siècle. C'est pour ça que je lui donne son nom. Il est devenu patriarche d'Alexandrie, donc chef de l'Église en Égypte, et il a lutté sans relâche pour la divinité de Jésus-Christ, pour la vérité de Nicée, qui était encore contestée après, hein, parce que malgré l'appui du pouvoir impérial, il y avait des intrigues de cour de toute façon, les Ariens ont eu parfois le pouvoir. Il y a même eu un moment où ils étaient majoritaires. Ce qu'on doit désigner comme hérétique sur ce point. On faillit l'emporter avec l'appui, à ce moment-là, des pouvoirs impériaux. Et Athanase a été déposé de son patriarcat plusieurs fois. À un moment, on a gardé ça comme une expression typique, ça paraissait seul contre le monde entier. Athanase contra mundum. C'est une expression qu'on emploie parfois pour désigner la situation où un homme se dresse et tient bon malgré l'opposition, semble-t-il, universelle. A été un théologien de qualité, beaucoup moins touffu, multiple, drôle aussi que Origène, mais important. Et sur la christologie essentiellement, mais aussi dans le sens de l'ascétisme chrétien, avec un mouvement qui se développait de chrétiens qui se retiraient au désert, se livraient à la contemplation, avec une tendance. Plusieurs à valoriser le célibat. Ça aussi, ça, c'était une tendance croissante pendant ces premiers siècles. Athanase, donc, a été aussi un jalon important. Et puis alors, à la fin du même siècle, est né en Afrique du Nord un homme qui est plus grand encore, je crois, d'origine. Vraiment l'un des plus grands génies de l'histoire humaine, et reconnu comme tel par des non-chrétiens, comme Castors, dans son livre sur les grands philosophes, lui accorde une place parmi les plus grands. Augustin. Augustin, comme Athanase a été, lui, canonisé, hein, Athanase, Saint-Augustin, c'est mon père. Augustin, en Occident, a été le plus grand des pères de l'Église, façonné tout le christianisme occidental. La mère est chrétienne, catholique, mais lui-même n'a pas été baptisé dans l'enfance, n'a pas été chrétien d'abord. Il a été sous l'influence d'une secte des manichéens, secte de la liste, pendant une dizaine d'années, puis il est passé par d'autres stades. Jusqu'au moment où, faisant carrière dans l'éloquence, un orateur à la fois par le don naturel et la formation qu'il avait reçue, il a cédé au conseil de ses amis d'aller écouter Ambroise, l'archevêque de Milan. C'était un bon orateur. Ambroise de Milan, c'était un ancien haut fonctionnaire de l'archevêque, qui avait abandonné sa belle carrière, je vous l'ai dit, d'un petit cercle intellectuel. Quel brillant. Et alors, Augustin, nommé professeur de rhétorique à Milan, cède à l'assistance de ses amis, il dit, tu devrais écouter Ambroise, vraiment, c'est pour ton métier, c'est il faut que enfin, il y va. Et puis, peu à peu, il est convaincu par la prédication qu'il entend. Il se rend compte que les objections que les manichéens lui avaient présentées contre la foi chrétienne orthodoxe ne tenaient pas. En particulier, toutes ces difficultés de l'Ancien Testament, Ambroise pratiquait les éléments allégoriques, comme la plupart, et ainsi éliminait les difficultés de l'Ancien Testament, donc dans les manichéens faisait des grandes choses, et qui avait bloqué Augustin. Et du coup, Augustin s'est senti travailler de plus en plus, et c'est la conversion, la fameuse scène du jardin, que vous connaissez sans doute, il était maintenant convaincu, mais il était lié par la qui a appelé lui-même la concupiscence. C'était son problème majeur. Pas se passer de pas. Et il était persuadé que s'il se convertissait, il faudrait qu'il fasse comme Saint Antoine, cet ascète, dont il avait lu une biographie, un modèle, il faudrait qu'il soit célibataire, qu'il rompe avec la concubine qu'il avait, enfin, remarquable d'ailleurs, et s'il ne pouvait pas être. Et puis, travailler toujours comme ça, et disait les épîtres de Paul, qui était là dans une maison amie, je crois, il sort dans le jardin à un moment, puis il entend une voix d'enfant qui chantonne dans le jardin d'à côté, prends Zélie, qui perçoit ça, il a comme parole de Dieu pour lui. Il rentre dans la chambre où il y avait le codex des épîtres, d'ouvre à tard. Donc, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les compatibles. Transpercé, ça a été sa conviction. Alors, il espérait après ça pouvoir mener une vie de réflexion, de méditation, de contemplation. Il avait étudié les philosophes et tout, mais on a recommencé à réfléchir avec tous les éléments de conversion. Ensemble, c'était dans son esprit, il a très vite d'ailleurs commencé à écrire des textes, brillants déjà, on s'avançait à la réformer. Et puis, il décidait de rentrer dans son pays natal, de former une petite communauté de travail et de prière qui pourrait poursuivre sa réflexion. Et il est rentré chez lui, à Sougaras, en Algérie, pour lui. Et il a commencé effectivement à lire pour quelques amis comme il espérait le faire, mais au cours d'un déplacement dans la ville d'Hippone proche, à Naba aujourd'hui, on le reconnaît au culte, l'office de l'église, et la foule, Augustin prêtre, réclame Augustin comme prêtre. Je pense qu'on peut vous conseiller. Il n'a pas pu. Il essayait déjà, mais il n'a pas pu s'échapper. Et la foule savait que s'il voulait qu'il devienne prêtre, presbytre, c'était pour succéder à l'évêque. L'évêque était vieillissant, alors il voulait quelqu'un qui voulait prendre la place. Et alors, ça n'a pas pu lui. Et il est devenu, peu de temps après, l'évêque d'Hippone, qui à partir de là, leader de toute l'église d'Afrique. Et c'est dans ces grands combats doctrinaux en même temps qu'il avait affaire à tous les problèmes quotidiens de ses paroissiens. Hallucinant. Il faisait fonction de père, d'homme public en même temps que le pasteur, prêchant quotidiennement. C'est un travail vraiment qui avait écrasant sur tous les points. Mais il a réussi, ça n'a pas été facile, hein, que certains de ses livres, il les a écrits sur 15 ou 20 ans. Parfait, attends. Mais il a produit quand même plusieurs ouvrages remarquables menant divers combats, le combat contre les donatistes, les puristes qui se séparaient de l'Église en Afrique du Nord, le combat contre les manichéens, les tabors qui avaient été donc ses maîtres en même temps, le combat contre les donatistes, les fanatiques de la pureté, et là alors il a été le théologien de l'autorité de l'Église. L'autorité de la hiérarchie et même des moyens de coercition physique à l'égard des schismatiques et des hérétiques. Il a ainsi interprété le contre-allé d'entrée de la parabole. Comme vous l'avez dit, contre-allé d'entrée de la parabole du festin, il a légitimé l'action du bras séculier contre hérétique ou schismatique. À la suite de ce verset, il a été contre les donatistes, l'homme de l'autorité de l'Église. Puis il a été, alors, ce grand combat dans sa vie sans doute, ce qui lui a valu son surnom de docteur de la grâce. C'était le grand adversaire des Pélagiens, de ses disciples Pélage, qui qui glorifiait le libre arbitre de l'homme, présentait l'homme comme doué de la capacité de choisir différemment le bien et le mal, et ainsi de s'attirer les mérites. Il atténuait la vérité du péché originel. L'effet d'Adam, c'est nous donner de mauvais exemples, mais pas à pire. Et Augustin était le porteur de la grâce, souveraine de Dieu, qui décide de tout, de la prédestination, contre ces tendances pélagiennes. Saint Augustin, je crois qu'on doit dire qu'il a été le père de la réforme, comme vous le savez sans doute, le père du Moyen-Âge, du catholicisme, à bien des égards, et peut-être même de la modernité. C'est la taille du personnage. Quelle virtualité dans son œuvre. Il a assumé tout l'héritage de l'antiquité chrétienne avant lui, grec, mais il a repris cet héritage d'une manière vraiment puissamment originale, en partie à cause de son manque d'érudition. C'est un cas catholique, c'est pas. Mais où les limitations de son savoir ont un effet positif. Il savait peu le grec. Il a un peu appris au cours de sa vie, mais il le savait assez peu. Il ne savait pas l'hébreu du tout. Il ne connaissait pas tellement les théologiens venus avant lui. Et du coup, il a été obligé d'innover, d'inventer des solutions aux problèmes qui se posaient. Alors que s'il avait été l'homme d'une grande érudition, il aurait peut-être consumé son énergie à chercher des citations chez des prédécesseurs, à faire des synthèses. En général, c'est quand même beaucoup sûr, mais dans le cas d'Augustin, bon. Il a eu une controverse avec Jérôme, qui était Saint Jérôme, traducteur de la Bible en latin. Jérôme s'est un peu agacé. Il a fait un petit parvenu. En gros, c'est ça. Pour Jérôme, il ne savait pas grand-chose, cet Augustin. C'est vrai qu'il ne savait pas grand-chose, mais c'était un génie, je me souviens pas. Bon. Donc, il a été le père de la réforme, le père du Moyen-Âge, et le père de la modernité à certains égards. Père de la réforme, par deux traits principalement, me semble-t-il. Le sens de la grâce. Le sens de la grâce, on va parler, c'est sur ce point tout spécialement que les réformateurs ont appelé à Saint-Augustin. Le sens que tout est de Dieu, que l'homme est incapable, prisonnier du péché originel, de rien faire, qui, indépendamment, puisse plus avoir de sa vie. On ne peut pas dire. Il est compris la justification par la foi. Parce que pour lui, la grâce nous permet de mériter. Et les réformateurs n'ont peut-être pas voulu dire à quel point. Donc, il y a là une différence qui permet de mériter. Ce sont les dons de Dieu qui permettent de faire les bonnes œuvres, qui nous permettent d'hériter du salut. Dieu couronne ses propres dons en nous récompensant par le salut. Mais le salut reste le fruit d'une ascension morale et spirituelle jalonnée de mérite. Mais enfin, disons, faire de la réforme par ce sens de la grâce et du drame du péché. C'est rendu une construction puissante par la fantaisie. Alors qu'Origène n'avait pas connu cela, par exemple. Pas connu une conversion. C'est une question de l'enfance, très sincère, très latente. Augustin avait connu une autre expérience. Deuxième trait, le biblicisme. Je peux m'exprimer ainsi. Augustin a tranché sans doute sur le commun des bêtes de l'Église, non pas en accordant plus d'autorité en théorie à la Bible, parce que tous ont connu la Bible, plus d'autorité, mais en la travaillant beaucoup plus rigoureusement, en lui donnant en pratique un rôle plus décisif. On a pu vraiment parler d'un biblicisme de Saint-Augustin. Et il a très nettement fait la différence entre l'autorité de la tradition des pères et celle de la Bible. Plus qu'on ne le faisait, parce que c'est un peu chou, du genre. Les pères de l'Église avant lui étaient prêts à dire l'Écriture, oui, mais c'était toujours l'Écriture avec la tradition qui s'apportait jusqu'à eux. Et Augustin a été plus net dans une élévation de la Bible au-dessus de l'autorité même des conciles ou des autres pères. Ça ne veut pas dire qu'il était séparé d'eux, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas lui-même en grande tête à l'égard de la tradition, mais il y a une note d'insistance sur l'autorité biblique et une connaissance effective de la Bible. Il y avait une mémoire prodigieuse qui connaissait sa Bible, qui ont été, semble-t-il, comme un tremplin pour le saut des réformateurs. On le saura plus tard. Mais il a aussi été le père du catholicisme médiéval. Il ne faut pas l'oublier, parce que les protestants, Saint-Augustin, certes. Mais il a aussi été le père du catholicisme médiéval. Sa vision du salut est quand même foncièrement celle de l'ascension jusqu'à Dieu par les mérites et les œuvres. Ah, c'est la grâce qui permet. Et s'il a été un peu moins sacramentaliste que la moyenne des pères avant lui, il a quand même été. Il croit en une efficacité propre des rites. Oui, ça aussi requiert la foi, mais c'est une efficacité propre des rites. L'Église a reçu un dépôt la grâce. Et puis alors l'autorité de l'Église, à l'instant, ça aussi, ça reste très lourd chez Saint-Augustin. C'est ce qu'on voit se continuer tout au long du Moyen-Âge, où il a été le maître. La formule que je vais citer en latin, là, Augustinus Magister. C'est le maître. C'était la référence pour tout l'Occident. Beaucoup moins en Orient, puisqu'il est plus en latin, l'Église orientale n'est pas en tête à l'égard d'Augustin comme le christianisme de type latin, bien sûr. Je pense à dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de réformation en Orient. S'il y a eu une réforme en Occident, c'est parce qu'il y avait eu Augustin en Occident. Bon. Donc, père aussi du catholicisme. Elle ne peut pas remonter ça. Et, troisièmement, père de la modernité. Alors, ça, c'est par certains traits dont je n'ai pas encore parlé. Dans son invention originale, Augustin fait preuve d'un sens de la subjectivité. Une finesse psychologique qui sont déjà modernes. Il est beaucoup plus moderne, si vous le voyez aujourd'hui, que les hommes du Moyen-Âge. Il y a un sens du sujet « je ». Il est le premier à avoir écrit une autobiographie, les confessions, sont la première mise en scène d'une subjectivité, pas seulement ça, bien sûr. Et on peut dire que par-delà le Moyen-Âge de la Réforme, Augustin annonce aussi la modernité. Bon, ça c'est périphérique en détail. Même l'argument par lequel Descartes commence le discours de la méthode, il y est déjà chez Augustin. Celui qui dans sa réplique au Celtique, ceux qui doutent, qui ne peuvent pas douter de leurs doutes. Et on a pu remarquer, bien sûr, ce n'est qu'un argument parmi d'autres chez Augustin. Alors que ça devient le point d'appui chez Descartes. Enfin, c'est bien ce rapport.
Modernité dans un sens négatif.
Je ne me prononce pas là d'une manière qui essaye de valoriser ou de dévaloriser. Je pense qu'il y a des aspects négatifs et des aspects positifs à cette promotion du sujet, le sens du je, de la personne qui est caractéristique de la sensibilité moderne à partir de la Renaissance et avec un Descartes comme jalon d'importance particulière. Et nous en sommes affectés, quoi que nous voulions. Nous essayons de corriger le négatif par l'écriture. Je pense qu'il y a d'ailleurs aussi un effet scripturel. Je crois que chez saint Augustin, ce n'est pas sans lien avec son objectif. Cette découverte sujet lui-même n'est pas grecque, mais a des racines bibliques. Mais disons qu'on voit bien que cela a provoqué la modernité à divers égards. Bon, je ne développe pas tellement ça, parce que ce n'est pas plus intéressant pour notre propos, mais je voulais le dire quand même pour que vous saisissiez à quel point Augustin, c'est peut-être le plus important de tous les penseurs depuis le Nouveau Testament. Du point de vue chrétien. Je pense que les réformateurs ont dit très en avance aussi, mais ils ne sont pas pensables même sans Augustin, et Augustin a une ampleur, une ampleur plus. C'est vraiment très
différent.
Alors, pas pour l'Orient, et effectivement, il a relativement peu influencé l'Orient. Il n'a pas connu là-bas, et puis il y avait de manière générale, chez les Orientaux, un sentiment de supériorité. Peut-être, parce qu'on ne peut pas se faire comprendre, on pourrait peut-être comparer au sentiment des intellectuels européens aujourd'hui, peut-être un monde français, à l'égard des Américains. C'est un peu l'attitude des Orientaux à l'égard des Latins. Eux, ils avaient la grande tradition des philosophes. Les Latins, c'était des questions pratiques, avec un sens juridique, c'était des affaires, des conquêtes militaires, mais regardez quand même d'un peu haut. Les Latins étaient pour eux suffisamment cultivés, les Orientaux. Alors, ce qui s'écrivait en latin, en théologie, les théologiens de l'Orient, s'ils avaient même appris le latin, ils sont sous ces guerres. Vous voyez,
je
alors, Origène, oui, c'est la source. L'œuvre d'Origène, c'est un monde dans lequel ont vécu, en luttant avec le problème qu'il allait soulever, pratiquement tous les Orientaux. On a eu d'autres Orientaux dont je n'ai pas parlé. Hein. J'ai parlé d'Athanas, mais je n'ai pas parlé des trois grands Cappadociens, et en particulier de Grégoire de Nice, qui est un homme important aussi. Et alors, en Orient, ça a continué après Augustin aussi. Il y a encore un homme important, au 7e siècle, qui a fait une sorte de récapitulation de la tradition patristique orientale. C'est Saint Jean de Damas. Jean de Damas, Damasène, c'est-à-dire de Damas, qui a mis en ordre, en quelque sorte, les richesses de la tradition patristique orientale. Et jusqu'à nos jours, c'est son livre qui est le manuel de base dans la formation des orthodoxes sans oriental. Dans les séminaires orthodoxes. Sans doute plus maintenant, tout à fait, surtout depuis que le mouvement écuménique a influencé, plus comme un texte exclusif. On a pu dire que les Orientaux étaient intéressés à la statistique avec Saint-Jean de Damas. Évoluant très peu après. Alors qu'en Occident, l'évolution a été continue et importante, avec tous les ferments qu'il y avait dans l'œuvre d'Augustin. Alors, après cela, donc, Arbusinus Magister, au bout des siècles, ne se passe pas dans le monde, parce que les barbares, les chers nos pères, ont envahi l'Europe occidentale, beaucoup plus bas que ce des Grecs et des Romains. Et il a fallu que la philologie, la réflexion se réfugie en quelque sorte, dans des couvents, pendant des siècles où les seigneurs féodaux se rustrent, se bagarraient entre eux. Et on a maintenu, là, sans produire grand-chose de plus. Bien sûr. C'est des détails à marquer. Je signale un livre déjà maintenant, c'est tout à fait récent, mais que j'ai trouvé remarquable, faire vivre, qui a été l'expérience intellectuelle de ces siècles assez obscurs. C'est le livre de Philippe Wolff sur l'éveil de la pensée européenne au temps du Moyen-Âge. Philippe Wolff, vous l'avez. Dans une collection de poches, je crois que c'est la collection Poche, Médiation Poche. quand la trêve de Dieu, son influence de l'Église, a permis les terreurs de l'an 1000 passé de reconstruire une vie sociale un peu plus satisfaisante au Moyen-Âge. Et aussi certaines inventions, voilà, aujourd'hui on a parlé, très bien et d'autres aussi, Régine Perlou, de l'influence que certaines inventions pour expliquer le décollage du Moyen-Âge à partir du XIe siècle, donc quand les choses ont commencé à s'améliorer économiquement, socialement au Moyen-Âge, alors c'est aussi réveillé la discussion théologique. Et qu'on a recommencé à faire du travail novateur en matière de réflexion sur la foi chrétienne. Commencé de façon rudimentaire, c'est sûr, mais il y a eu un débat sur l'Eucharistie, où un homme Béranger de Tours s'est montré assez hardi pour sa critique de ce qui lui semblait une conception superstitieuse des choses de plus en plus fréquentes dans les églises. Il a attaqué la transubstantiation. Il y a eu débat, et les choses se sont animées. Et à la fin du XIe siècle, un homme s'est dressé, qui était un penseur génial, un penseur de grande envergure, on peut dire vraiment le père de la scolastique. C'est Anselme. Saint Anselme, l'évêque de Cantorbéry. Mais il ne venait pas d'Angleterre. C'est là qu'il a terminé sa carrière comme archevêque de Cantorbéry. Il venait des Val d'Aoste. Et l'Europe, à l'époque, elle existait. Il venait donc d'Italie, de cette partie d'Italie où on parle français, le Val d'Aoste. Il est devenu prieur, puis abbé, bec au Normandie. Le bec en Normandie n'est pas si loin.
Le bec est loin.
Oui, c'est ça, c'est le bec est loin. Oui. Le bec est loin, tu n'es pas loin. Donc, à l'ouest, sur Seine, je ne sais pas si c'est 100 km à peu près, donc était une grande abbaye de l'époque. Il est devenu l'abbé. Qui était un seigneur féodal, finalement, l'abbaye. Donc, il en jouait le rôle à la tête d'une abbaye. Et qui, de là, a été appelé, lorsque son prédécesseur est mort, c'était l'enfant qui avait été l'abbé. Il est devenu archevêque de Cantorbéry, qui est mort. Alors, Anselme a aussi pris la succession au siège archiépiscopal de Cantorbéry. Et Anselme a lancé le programme de la scolastique, qui est croire pour comprendre. La foi en quête d'intelligence. Il était augustinien, disciple d'Augustin, mais avec un tout autre tempérament, beaucoup plus rigide, plus féodal. Un penseur, non pas de richesse et de foisonnement, comme l'est encore Augustin, mais un penseur de rigueur, de construction dépouillée, sobre, de réflexion concentrée sur un point. Et partant de principes augustiniens, il faut croire pour comprendre, pour humilier son cœur, pour que Dieu révèle sa vérité, Anselme a conçu un programme de l'étude théologique. Il s'agissait de partir du dogme reçu, des vérités de foi reçues de l'Écriture et de l'Église, que pour lui ça ressemble. Il ne songe pas à s'interroger sur une préséance éventuelle de l'Écriture, ça ressemble. C'est la foi reçue. Il sait qu'il faut partir des dogmes reçus pour comprendre ce qu'on croit. Pour chercher la rationalité impliquée par les dogmes reçus. C'est là son programme théologique. Non pas ériger la raison en souverain juge, ça c'est la question. Ça c'est une voie de païen, orgueilleuse, que Dieu châtirait par l'égarement, partir humblement de ce qu'on croit, en obéissance à la révélation reçue, comme un fils soumis de l'Église. Mais user alors de la raison, avec audace, inventivité, pour trouver les liens internes des choses que l'on croit de manière juste à côté. Alors, il a appliqué son programme, et en particulier deux points. Il a fait d'un durable, très importante. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Cur Deus homo. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Je crois que Dieu s'est fait homme. En Jésus-Christ, c'est le Dom Jésus. Mais pourquoi? Pour que je comprenne. Et Anselme, en cherchant à résoudre cette question, c'est très intéressant à déplacer l'accent qui est chez les pères, comme je vous l'ai dit, avec une pensée façon prédominante sur l'incarnation, et à déplacer cet accent vers l'œuvre de la croix et la transaction objective qui s'opère à la croix. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Parce qu'il fallait à la fois quelqu'un qui soit Dieu, qui soit homme, pour résoudre le problème de l'humanité devant Dieu, le problème que la faute avait causé, le lèse-majesté, le crime de lèse-majesté que l'humanité avait commis. Il fallait une réparation. L'honneur de Dieu était engagé. L'homme était incapable, prisonnier de son péché, dans sa faiblesse, d'apporter cette réparation. Dieu pouvait l'apporter, mais il fallait que ce soit l'homme qui fasse. Alors Dieu s'est fait homme pour pouvoir apporter la réparation à la faute commise et ainsi nous racheter. Vous avez la logique du rapport entre incarnation et rédemption qui est mise en valeur, pas de manière parfaite. Parle plutôt de l'honneur et de la justice de Dieu. Et ça, c'est un décalage par rapport à l'Écriture. Parce qu'il est rempli du sens féodal de l'honneur. Et ça, c'est comme supramement compris. Donc, par rapport à la Bible, il y a quand même un décalage. Mais c'était un progrès remarquable par rapport à tout ce que les prédécesseurs avaient dit, et même Saint-Augustin sur ce point précis. Saint-Augustin, il n'a pas vraiment réussi à expliquer le pourquoi de la croix. Et là, Anselme, c'est un progrès. Deuxième grand progrès, c'est le deuxième grand verset, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Nier l'existence de Dieu, c'est être fou, dit l'Écriture. Donc je le crois. Mais maintenant, il faut que je le comprenne. En quoi est-il fou, est-il insensé, de nier l'existence de Dieu? C'est très émouvant, dans le sens, bien qu'ils le disent d'une manière retenue, discrète. Il raconte que pendant des jours et des semaines, il a lutté avec cette pensée, ça voyageait, etc. Ça tournait dans sa tête, il ne trouvait pas pourquoi. Et puis tout à coup, il a trouvé. Il se retrouve dans son livre Monologion. Le Proslogion, qui est un autre livre aussi. Le Proslogion. Et ce qu'on appelle parfois preuve ontologique de l'existence de Dieu, ça tient en très peu de lignes en fait. Il s'agit de la découverte du nom de Dieu. Dieu est celui dont on ne peut concevoir de plus grand. Or, si je dis Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu. Si je remplace le mot Dieu par ce qu'il veut dire, celui dont on ne peut concevoir de plus grand, eh bien, je tombe dans la plus évidente contradiction. La proposition que je prends faire est une contradiction. Car si je dis celui dont on ne peut concevoir de plus grand n'existe pas, je me contredis. En disant qu'il n'existe pas, je montre que je peux concevoir quelqu'un de plus grand qui existerait. Donc, la proposition même, il n'y a pas de Dieu, est auto-contradictoire. C'est être fou de s'y attacher. Quel supplément de formation, de stade, je résume, hein, mais c'est ça, en peu de vie, en gros, une page, une page et demie. Et depuis, ça n'a pas cessé de faire de discuter des théologiens et des philosophes. J'ai chez moi plusieurs ouvrages consacrés à cette phrase ontologique, de débat de notre siècle, de philosophes et de théologiens. Dès l'époque d'Anselme, il y a un certain Goninon qui a pris la défense du fou en disant que ça ne tient pas, etc. Arsène le garde fondu. Et de siècle en siècle, ce qu'il a dit là continue de faire. Je sais pas.
Je crois que. Je
crois que c'est valide. Bon, je pense, mais je ne suis pas sûr que. Moi, j'ai travaillé autrefois, c'était pour un de mes certificats de l'Institut supérieur de théologie, sur François Pion, mais je n'ai pas travaillé à la bibliothèque ici. J'ai travaillé à Barabaco. Et je ne sais pas si nous avons le post-folgon ici en bibliothèque. Si nous l'avons, on peut le copier, monsieur. Bon, Anselme, fondateur de la scolastique. Ensuite, il a continué, ça s'est développé, avec une grande discussion tout au long du XIIe siècle. Un passage découvant, Anselme était encore un homme découvant, l'abbaye, belle. Aux écoles, les écoles épiscopales, que dans les villes, de nombreux évêques suscitaient à côté de la cathédrale. Et puis, fin du XIIe, marqué par l'influence française et de son catholicisme, un mouvement nouveau, les choses se sont peu à peu accélérées. Et aussi grâce à la prospérité revenue, les grandes foires, les villes qui commençaient à bourgeonner, les marchands qui constituaient un tiers état plus prospère, comme ces histoires, vers la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, une effervescence culturelle et intellectuelle très remarquable. Avec la création des universités, c'est là que ça a commencé, les universités. Du point de vue intellectuel aussi, je vous en partage la redécouverte de l'intégralité de l'œuvre d'Aristote, enfin l'intégralité que nous connaissons, parce qu'il y a une partie qui est irrémédiablement perdue. Les croisades ont eu un grand rôle à cet égard, parce que cette œuvre d'Aristote avait été perdue en Occident, mais ce sont les Arabes qui l'ont sauvegardée. Ce sont les grands penseurs de la tradition musulmane qui ont gardé les écrits d'Aristote et d'autre part ont intégré Aristote avec le néoplatonisme dans des grands systèmes musulmans, mais néoplatoniciens et aristotéliciens aussi pour une part. Alors ça a été la découverte en Occident dans les jeunes universités de l'homme d'Aristote qui tout à coup a paru bien supérieur à Platon, avec une observation tellement plus aiguë de la réalité, avec une logique tellement plus raffinée et rigoureuse, et les intellectuels se sont enthousiasmés pour Aristote, mais souvent l'Aristote interprété à la lumière des commentaires arabes, d'Averroès en particulier. Averroès, comme son nom a été transcrit traditionnellement en Occident, je crois Ibn al-Rushd, quelque chose comme ça, en arabe. Et c'est à ce moment-là que qu'ont surgi les ordres mendiants. Les ordres mendiants correspondant, si vous voulez, aux prêtres ouvriers de l'époque. À temps nouveau, homme nouveau, les vieux ordres plutôt féodaux, comme bénédictins, etc., ne comptaient plus. Et deux jeunes hommes ardents ont lancé un nouveau secteur démocratique dans sa structure mendiant, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas la possession du terrain de richesse brisé avec l'ordre féodal. Un certain Dominique, l'Espagnol, un Dominique de Guzman, qui a fondé l'ordre des prêcheurs, appelé aussi dominicain. Et puis, Saint François d'Assise, italien, donc des ordres des frères mineurs, des petits frères, appelés aussi franciscains. Ordre mendiant, ordre nouveau, contestataire, révolutionnaire pour l'époque, Ils ont failli d'ailleurs être interdits, il y a un pape qui, sous les pressions de tous les conservateurs, voulait les interdire. Mais ce pape est mort dans les 15 jours et le successeur est au contraire favorable aux franciscains et dominicains. Et dans l'ordre des dominicains, un jeune fils de Seigneur de la région de Naples, Quino, est entré tout jeune, plein d'ardeur, s'appelle Thomas Aquino. Il a passé sa vie dans l'enseignement universitaire, comme dominicain, principalement à Paris, mais il a été enseigné à Cologne et à Naples finalement, à la fin de sa vie. Et c'est l'homme qui a réussi, qui a eu cette audace de récupérer Aristote pour l'orthodoxie, mais en réaménageant l'orthodoxie. Et il a fait une synthèse tellement brillante, tellement solide, mettant tout à sa place en quelque sorte, le naturel qui, à sa part, le surnaturel, l'étage supérieur, la raison, la foi, tout bien coordonné, la grâce n'abolit pas la nature, mais elle la guérit et surtout elle l'amène à sa perfection. Il a bâti un système si remarquable que ce système a duré avec des adeptes fervents jusqu'à nos jours. Je pense qu'on peut dire que depuis les années 60, que le système thomiste, comme on l'appelle, Thomas, souffre de la plus forte désaffection, du creux, si on veut, plus profond, par rapport à l'adhésion qu'il a eue tout au long des siècles depuis la mort de Saint-Thomas. C'est dire que c'était un travail de qualité. Ce thomisme, comme je l'ai dit, c'est pas le catholicisme de la fin du 19e siècle. Hein. Sur l'Immaculée Conception, je signé. Il y avait une position, par exemple, qui pourrait nous réjouir nos protestants. Mais, cela dit, quand même qu'on doit reconnaître que le thomisme, c'est en gros le catholicisme. Le catholicisme, son visage le plus digne, mais c'est l'influence de saint Thomas qui a ensuite dominé, et le Concile de Trente, et la période ultérieure, de telle sorte que, on peut dire que le milieu du XIIIe siècle, la date en gros de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, c'est vraiment le moment de l'achèvement du système catholique de théologie. Peut-être que sur certains points, pas encore. Toutes les excroissances et tous les renforcements que le siècle suivant apporteront. Alors, comment l'histoire a-t-elle continué ? En ce qui concerne le modèle catholique, en allant jusqu'à nos jours, mais il est très saillant, et la critique quand même, je vais réserver ça à la prochaine du budget république. Comment résumer la suite ? Saint Thomas est en toute sorte d'aboutissement, parce que cet thomisme a fait autorité jusque dans les années 50, de manière hégémonique dans l'Église catholique européenne. D'abord, il faut signaler que la fin du Moyen-Âge a été assez tumultueuse, que la belle synthèse de saint Thomas, oui, elle a gardé ses adeptes, mais qu'elle n'a pas été reconnue par tous de très loin. Il y a eu des courants divers, que la scolastique a évolué elle-même vers ce qu'on appelle la passe scolastique, et le nominalisme qui a tendu à dissocier ce que saint Thomas avait si harmonieusement réuni, disposé. Il y a une tendance à la dissociation entre raison et foi en particulier. Et d'autre part, il y a eu des courants mystiques, un nouveau genre, mystique des profondeurs, mystique de la mortification du moi, avec certains traits qui peuvent rappeler l'Orient indien pour nous. On a comparé le maître Eckhart. c'était dominicain d'ailleurs, mais qui a été condamné. Enfin, donc ce panthéisme a pu le comparer à certains penseurs hindous. L'action de ces courants divers, que j'en passe encore, a conduit finalement à la dissociation du modèle, au moins quand on règne dans la culture. La chrétienté, donc, ce modèle était la formule, a éclaté, vous le savez, avec la Renaissance, avec la Réforme. Bien sûr, le thomisme a continué chez ses fidèles, mais il n'a plus constitué la structure mentale dominante des Européens d'Occident. À partir de la Renaissance et de la Réforme, 15e siècle, 16e, le concile de Trente, au milieu du 16e, a essayé de faire le ménage, de réagir après 30 secousses du schisme de la Réforme et a lancé donc la contre-réforme. En gros, le concile de Trente a sanctionné des buts de thomistes. Ce n'est pas lié à une école de théologie particulière, mais on peut dire que de manière générale, l'axe du concile de Trente a correspondu à l'axe du thomisme. Assez modéré hein, par rapport à des positions qui s'étaient manifestées précédemment, par exemple, à l'égard de l'autorité papale. Il a fait un travail techniquement de qualité. Donc, peut-être la réforme l'aurait emporté, mais remise en ordre avec un appui intellectuel solide comme celui du thomisme, mais la contre-réforme a réussi l'opération. Après le concile de Trente. Et en France en particulier, le XVIIe siècle a été, à bien des égards, un siècle d'or pour le catholicisme. Disons, dans le cadre général d'un thomisme solide, sanctionné par le concile de Trente, vous avez eu un fonctionnement assez riche, avec des courants spirituels nouveaux, spiritualité salésienne de Saint François de Sales, par exemple, puis Saint Vincent de Paul, l'action, vous avez l'oratoire qui a été fondé par le cardinal de Bérulle, des hommes d'une grande qualité, une nouvelle forme de mythicisme, vous avez eu des controverses, et des courants très importants, bien sûr, le jansénisme, avec Pascal, qui renouait avec Saint Augustin, mais en refusant d'être assimilé aux protestants. Position inconfortable. Nouvel augustinisme, plus âpre, plus abrupte, et dans le cas de Pascal lui-même, associé au sens moderne de la subjectivité, plus encore que ce qu'on trouve chez Augustin lui-même. Mais refus de toute alliance avec le protestantisme. Au contraire, un protestant étant si mal vu, le temps de Louis XIV, ça avait séparé les protestants en France. Alors, un grand effort de la part des jansénistes pour qu'on ne les confonde pas avec les calvinistes. Mais beaucoup de luttes, des productions intellectuelles de haute qualité.